Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Job chapitre 5. Job chapitre 5. Crie maintenant. Qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses emportements. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils, ils sont foulés à la porte et personne qui les délivre. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre, il envoie l'eau sur les campagnes, il relève les humbles et délivre les affligés, il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leurs propres ruses, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi, comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras les troupeaux complets, tu verras ta postérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre à profit. On va demander au Seigneur de bénir l'écoute de sa parole. Notre Dieu, nous le savons, tu nous l'as montré au cours des années, que ta parole est profonde et extrêmement riche. Puisses-tu, Seigneur, nous guider ce matin, illuminer nos esprits, ouvrir nos cœurs et tout notre être à la réception de ta parole, de manière, Seigneur, à ce que les principes que tu veux nous enseigner ce matin soient vraiment bien reçus et mis en pratique dans notre vie de tous les jours. Nous te demandons ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé ce matin le sermon « Éliphaz maintient son faux diagnostic ». Alors, on va regarder 3 idées dans le livre qui sont assez clairement distinguées, les 3 parties. Alors, on a Éliphaz le plaideur, versets 1 à 7. On a Éliphaz le prescripteur, on va expliquer tout cela tantôt, versets 8 à 18. Et Éliphaz le professeur, versets 19 à 27. Alors, on se souvient que dans le livre, depuis qu'on a commencé à étudier le livre de Job, que Satan s'était présenté devant Dieu et avait demandé à Dieu d'éprouver Job. Alors, dans sa première requête, il avait dit qu'il ne pouvait pas être vraiment intéressé à aimer Dieu parce qu'il accusait Job d'agir uniquement par intérêt. Il dit, si tu lui enlèves ses biens, tu vas voir qu'il te maudit en face. Qu'est-ce qu'on avait vu dans la première épreuve? Il avait perdu tous ses biens. On sait que c'était un homme riche. À l'époque, les Écritures en parlent comme l'un des hommes les plus riches de l'Orient. Alors, il était vraiment extrêmement riche. Dieu avait permis qu'il perde tous ses biens, tous ses animaux. Et il avait perdu également un grand nombre de ses serviteurs, donc des êtres humains, et il avait perdu également ses 10 enfants. Et on se souvient qu'après la première épreuve, il n'avait pas donné à Dieu aucune... Il n'avait pas dit que Dieu était pas, qu'il était injuste. Dans la deuxième, on sait que Satan ne lâche pas prise facilement. Il revient devant le Seigneur et là, il lui demande, maintenant, il dit, les hommes, si tu touches à leur vie, autrement dit, pour garder leur vie, ils sont prêts à donner n'importe quoi. Alors, l'Éternel dit, oui, je te permets de l'éprouver dans sa santé et il permet qu'il arrive dans sa vie une maladie extrêmement profonde, extrêmement grave, extrêmement souffrante. Et encore là, après la deuxième épreuve, Job sort vainqueur et il n'attribue rien d'injuste à Dieu. Alors, il réagit saintement aux deux épreuves par la soumission au Seigneur et en attribuant rien d'injuste à Dieu. Maintenant, après le chapitre 2, on avait vu dans le chapitre 3 que ça avait commencé à se gâter un peu. Alors, fort probablement que sous le poids de la souffrance, et à cause de tout ce qui arrivait, il a perdu à peu près tout ce qui était son entourage, tout ce qui était sa vie, ses bien-aimés, ses animaux, ses richesses. Il dit 3 bêtises. Ça, c'était dans le chapitre 3. Et les 3 bêtises étaient les bêtises suivantes. Il avait déclaré, « Je maudis le jour de ma naissance ». Imaginez-vous, pour quelqu'un qui avait traversé les deux épreuves avec intelligence, avec soumission, en attribuant rien d'injuste à Dieu, quand il a ouvert la bouche sous le poids de la souffrance, il avait déclaré la phrase suivante, « Je maudis le jour de ma naissance ». Il avait dit une autre bêtise, une autre déclaration. Il avait dit, « Je voudrais ne pas être né ». Et la troisième bêtise, il avait dit, « Je veux mourir ». Je ne sais pas si, parmi vous autres, s'il y en a qui ont eu des expériences ou des épreuves dans la vie intenses au point où parfois on se décourage et on se dit au Seigneur, j'aimerais ça mourir. On préférerait mourir que de continuer à vivre parce qu'on trouve que les circonstances que le Seigneur nous envoie, on n'est plus capable de les supporter. Mais quand on dit ça, on fait une grave faute, on fait un grave péché parce qu'on est en train de dire à Dieu, je sais mieux que toi ce que tu dois m'envoyer. Alors, on fait une bêtise monumentale. Alors, on avait vu dans le chapitre 3 que, dans le fond, Dieu avait désapprouvé ces 3 phrases-là. Mais comment on peut savoir que Dieu désapprouvait les 3 phrases que je viens de vous mentionner? Bien, c'est en allant un petit peu plus loin dans le livre de Job, dans le chapitre 38, au verset 2, le Seigneur avait donné son appréciation des déclarations de Job. Et qu'est-ce qu'il lui avait dit? Il lui avait dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins? » Par des discours sans intelligence. Alors, il parle de Job. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins? » Un dessein, c'est un but. Le Seigneur fait toutes choses pour des buts. En disant « obscurcir mes desseins », c'est en train de dire « Tu ne comprends pas pourquoi je t'envoie les choses et tu obscurcis mes desseins. » Alors, il est en train de dire qu'il ne... Et un petit peu plus loin, Job lui-même, quand Dieu va intervenir dans le chapitre 42, Job lui-même va reconnaître que les déclarations qu'il a faites ne sont pas correctes. Job 42, verset 3, il dit, « Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » Oui, c'est Job qui parle, « Oui, j'ai parlé... sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Alors, il y a 2 choses. Dans les déclarations qui sont faites dans le chapitre 3, Dieu lui-même lui dit que ces déclarations-là, ce sont des folies et ça a obscurci ses desseins et que ce sont des discours sans intelligence. Et Job lui-même, au chapitre 42, quand Dieu va intervenir, il va lui adresser toute une série de questions, il va répondre, il va reconnaître lui-même que la manière dont il a parlé de Dieu était de la folie. Il dit, « Je parlais des choses qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Alors, on voit qu'à partir du chapitre 4, Là, on a les amis de Job qui commencent à vouloir venir le visiter. Et leur but, eh bien, c'était bien intentionné. Ils viennent le voir et leur but, c'est d'essayer de l'encourager et de le faire sortir de son état de torpeur et de malheur. Alors, ils viennent pour lui témoigner de la sympathie. Et il y a une chose qu'on peut donner comme... Ils vont tous aller voir Job et se servir d'un argument théologique qui est celui de la rétribution divine. Et qu'est-ce que c'est la rétribution divine? La rétribution divine, c'est une doctrine qui est biblique, qui dit que lorsqu'on fait du bien, Dieu nous récompense pour le bien qu'on fait, et lorsqu'on fait du mal, il nous punit, il nous châtie, il nous corrige pour le mal qu'on fait. Alors, la chose que ces trois hommes-là vont utiliser tout au cours de leur discours, c'est une doctrine qui est biblique, une doctrine qui est vraie, mais c'est une doctrine qui, dans leur cas, est mal appliquée. Autrement dit, c'est en train de nous apprendre que si on prend une vérité et qu'on l'applique mal, on fait une erreur monumentale. Alors, Éliphaz, la semaine passée, quand on a vu notre chapitre 4, Éliphaz avait commencé à dire à Job, « Si tu souffres, c'est sûrement parce que tu as péché. » Est-ce que c'était vrai? Les Écritures nous disent que Job était intègre et droit et qu'il craignait Dieu, c'était le fil conducteur de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas aucun péché dans sa vie, mais ça veut dire que le but principal de sa vie, c'était plus la crainte de Dieu et l'intégrité et la droiture. Alors, se faire dire par un autre que la cause des malheurs qui l'affligeaient, c'était les péchés, loin d'encourager Job, au contraire, ça l'affligeait davantage. Est-ce qu'il y a des leçons pour nous aujourd'hui là-dedans? Quand on voit quelqu'un dans la souffrance, on ne peut pas dire avec certitude que c'est Dieu qui lui envoie, Dieu qui le juge à cause de ses péchés. Parce que si on fait ça, ça peut être vrai que Dieu fait ça dans sa vie, mais on n'est jamais sûr de ça, à 100%. Alors, il vaut toujours mieux être prudent dans nos affaires. Alors, on avait vu dans le chapitre 4 que Éliphaz était probablement le plus vieux des trois amis de Job et que c'était lui qui avait commencé, qui avait ouvert la bouche pour essayer d'encourager notre ami Job. Mais il ne le fait pas correctement parce qu'il lui attribue la cause de ses souffrances à une vie de péché, alors que ce n'était pas la véritable raison. Mais Éliphaz, il fonctionnait avec la théologie de son époque, et il faut dire que c'était à l'époque des patriarches, donc il n'avait pas toute la révélation, et il se servait de les connaissances et des expériences qu'il avait vécues dans sa vie pour dire à Job, « Si tu souffres, c'est très certainement parce que tu as péché. » Et qu'est-ce qui nous fait dire dans les Écritures que tous les argumentations des trois amis de Job sont pas correctes? Encore là, nous, on a la chance de connaître le livre complet. On s'en va au verset 7 du chapitre 42. Alors, ici, on a le jugement de l'Éternel. Alors, on a vu le jugement de l'Éternel sur les discours de Job, ces trois déclarations folles qu'il a faites. Et maintenant, l'Éternel va se prononcer sur les déclarations des trois amis de Job. Dans Job 42, verset 7, ça se dit, « Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Téman. » Éliphaz, c'était le plus vieux. Dieu ne s'adresse pas au toi, il s'adresse au plus vieux. Il dit à Éliphaz de Téman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Alors là, automatiquement, on est en train de savoir par Dieu lui-même que les encouragements des trois amis de Job, c'est pas toutes des faussetés qu'ils disent. Mais souvent, ils vont prendre, le point commun de leurs trois interventions, ça va toujours être à peu près la même chose. Ils vont prendre une vérité et ils vont la mal appliquer. Alors, si tu appliques mal une vérité, si tu es en train de dire à quelqu'un, si tu souffres, c'est parce que tu as péché, et que ce n'est pas la véritable cause, et que Dieu t'a envoyé une souffrance pour une autre raison, au lieu d'encourager la personne, tu l'affliges davantage. Et on va voir que c'est ça qui va se passer. Alors, les affirmations d'Éliphaz sont vraies, mais elles sont mal appliquées. Il assume comprendre comment Dieu applique la rétribution. Il croit que les souffrances et le malheur qui arrivent à Job ont pour cause le péché dans la vie de Job. Sa contribution aura pour effet d'augmenter l'affliction de Job et de susciter une grande indignation chez celui qu'il voulait consoler. Alors aujourd'hui, on va voir qu'il va, il va continuer, parce qu'il avait commencé dans le chapitre 4, et bien il va continuer son plaidoyer auprès de Job dans le but de l'amener à la repentance, de lui faire réaliser que s'il est dans la souffrance, c'est parce qu'il a péché. Mais tout son discours prend une mauvaise direction parce que lui, il ne connaît pas la véritable cause. Et nous, on la connaît parce que dès le chapitre 1, on sait que c'est parce que Dieu a accordé à Satan le droit d'éprouver Job dans la première partie, de lui enlever ses biens et faire mourir ses enfants. Et dans la deuxième partie, de vraiment travailler fort sur son corps en permettant qu'il y ait une maladie tellement grave que là, Job est complètement submergé par la douleur. Moi, ce que je trouve d'intéressant dans le livre de Job, c'est que ça nous apprend des choses. Moi, j'ai entendu personnellement dans ma vie, depuis que je suis chrétien, des gens faire des commentaires sur les souffrances ou les douleurs ou les épreuves que quelqu'un d'autre traverse. Et je l'ai entendu, les genres de raisonnement que Éliphaz fait. « Ah, oh, mais là, s'il traverse ça, c'est un jugement que Dieu lui envoie dans sa vie à cause de tel péché. » C'est possible, mais c'est pas sûr. Alors, c'est ça qu'on apprend là-dedans. On apprend là-dedans que quand il est le temps de juger, d'essayer de comprendre pourquoi Dieu envoie une épreuve dans la vie de quelqu'un, on ne peut pas être sûr à 100%. Parce que si on se dit sûr à 100%, c'est comme si on prétend qu'on est capable de comprendre les motivations de Dieu lui-même. Pour comprendre les motivations de Dieu lui-même, il faut que tu sois Dieu toi-même. Si tu ne l'es pas, tu risques de faire des graves erreurs. Alors, j'ai intitulé les sept premiers versets « Éliphaz le plaideur ». Pourquoi j'ai dit le plaideur? Parce qu'on sait c'est quoi un plaideur. Un plaideur, c'est un avocat qui cherche à convaincre un auditoire ou quelqu'un de quelque chose. Alors, dans les versets 1 et 2, Job 5, versets 1 et 2, Éliphaz s'adresse à Job, il lui dit « crie maintenant ». Est-ce qu'il veut dire « lâche un cri » là pour... Sûrement que le mot « crie maintenant » veut dire « prie ». C'est « crie à Dieu ». Et qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses appartements. Alors Éliphaz, ici, veut prouver à Job la vérité de sa doctrine. Et sa doctrine, c'est à quoi? Si tu souffres, c'est parce que tu as péché. Alors il veut lui prouver qu'il a raison. Alors, il va essayer de prendre des arguments pour lui prouver qu'il a raison. Alors, dans les versets 1 à 7, il va maintenir son faux diagnostic que la souffrance de Job est reliée à son péché. Alors, il va essayer de développer ce thème-là. La thèse qu'il va développer tourne autour de l'idée suivante. Il est évident que tu récoltes ce que tu as semé. Il est en train de vouloir y semer cette idée-là. Alors, il va utiliser trois moyens pour y arriver dans les versets 1 à 7. La réprimande, l'image de la récolte et, troisièmement, la rétribution. Alors, la réprimande, Éliphaz veut démontrer à Job que sa prière n'est pas exaucée à cause de son péché. Il voit dans un état, il a perdu toute sa fortune, il a perdu sa femme, et lui-même dans une maladie extrêmement souffrante, et il lui dit... Si tu pries, Dieu ne t'exaucera pas. Mais le but de tout ça, c'est de l'amener à la repentance. Est-ce qu'il avait raison de faire ça? Mais non. On l'a vu tout à l'heure, on l'a dit tantôt, en faisant ça, au lieu d'alléger la souffrance de Job, il l'augmente. Il veut démontrer aussi, il veut lui faire prendre conscience que sa colère, parce qu'il est bien conscient que Job est en colère, et que sa colère démontre qu'il est un insensé et que ses emportements manifestent sa folie. Il est vrai que chercher des fautes dans les actions providentielles du Créateur est absurde et méchant. Dans les trois déclarations, est-ce que Job avait cherché des fautes dans les voies providentielles de Dieu? En lui disant, j'aimerais mourir, j'aimerais pas être né, je maudis le jour de ma naissance. Est-ce que, dans le fond, si tu dis à Dieu, je maudis le jour de ma naissance, tu es en train de lui dire, c'est pas correct de m'avoir mis au monde. C'était vraiment... Alors, chercher des fautes dans les actions providentielles de Dieu, c'est vraiment une faute grave. Alors, lui ici est en train de vouloir convaincre Job que la non-réponse à sa prière peut fort probablement être causée par un péché non confessé. Autrement dit, tu es en train de dire, je ne sais pas quel péché tu as fait, mais tu en as sûrement fait un parce que tu es là, et Dieu agit toujours en rétribuant celui qui fait le mal. Alors, c'est pas toujours vrai de façon universelle. Alors, ce passage ne peut d'aucune façon non plus justifier la prière aux anges et aux humains décédés, sauvés ou non. Parce que, quand il dit « Auquel des saints t'adresseras-tu? » La plupart des commentateurs pensent qu'il parle des anges. Le mot « les saints », pas un saint majuscule, avec un S majuscule. Il dit « Crie maintenant, qui te répondra? » Il dit « Auquel des saints t'adresseras-tu? » Alors, c'est sûr qu'on pourrait prendre ce verset-là et dire « Ah! » Le verset est en train de nous enseigner qu'on peut prier des saints. Des saints, c'est-à-dire, ça peut être des personnes sauvées. Ou, combien de fois vous avez entendu, moi je l'ai entendu très souvent, des personnes dire, « Ah, j'ai prié mon grand-père. » C'est pas une personne qui s'est jamais sauvée. Alors, aujourd'hui, les personnes qui ne sont pas sauvées vont souvent s'adresser aux anges. Aujourd'hui, s'il y a un sujet qui est bien populaire, c'est bien celui des anges. Le monde prie les anges. Alors, c'est pas la mention de « Auquel des saints t'adresseras-tu? » C'est pas une justification pour dire qu'on peut prier les anges ou qu'on peut prier des êtres humains décédés, qu'ils soient sauvés ou non. Quand l'épreuve se prolonge, et ça peut arriver dans nos vies, la sagesse consiste à confier à Dieu notre situation et à se reposer dans sa sagesse et sa bonté. Qu'est-ce qu'on avait vu la semaine passée? Je vous avais dit, j'aimais bien la petite phrase. Lorsque Dieu travaille dans ton dos, ferme ta main, mets ta main devant ta bouche. Autrement dit, si Dieu est en train de travailler sur ton cas par l'épreuve, par la souffrance, apprends donc que la première chose à faire, c'est mettre ta main devant ta bouche. Pour ne pas dire... attribuer des choses à Dieu qui sont injustes. Alors ici, on a vraiment la façon, si une épreuve qu'on a dans nos vies, elle se prolonge. Vivre une épreuve qui est courte, c'est facile. Ben, facile. Ça peut être difficile, mais une épreuve qui se prolonge, un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, et des fois ça peut être même plus long que ça, ça peut, à ce moment-là, ça affecte ton jugement. Et là, tu es porté à Dieu, de dire à Dieu, « Ben Seigneur, voyons, je vis une vie droite, je crains ta personne, je prie, je vais à l'église. » Et là, tu es porté à attribuer à Dieu, « Tu m'as oublié, tu comprends pas comment que je souffre. » Est-ce que c'est vrai que quand on dit des choses semblables, est-ce qu'on dit des quelque chose d'intelligente ou on dit des niaiseries? On dit des niaiseries. Alors, la seule chose à faire quand une épreuve se prolonge, c'est de faire comme le psaume 37 dit, nous versets 5 à 7. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Et gardez bien le verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alors, quand une épreuve se prolonge, qu'est-ce qu'on fait? On sait que c'est Dieu qui nous l'envoie. On se ferme la trappe, comme on dit, et on ne dit pas de choses que plus tard, Dieu peut faire en sorte qu'on prenne conscience de la folie qu'on a dit, qu'on le regrette. Tout simplement, quand l'épreuve se prolonge, mets ta main devant ta bouche. Je pense que c'était un excellent conseil qu'on avait vu que la semaine passée. C'était Thomas Brooks, qui était un puritain, qui avait dit ça. When the Lord is on your back, keep your hand on your mouth. Quand tu as le Seigneur sur le dos, puis tu le sais, mets ta main devant ta bouche parce que tu peux dire des âneries. Dans le verset 3 à 5, il veut lui faire prendre conscience que dans le fond, on récolte ce qu'on sème. Il va utiliser l'image de quand on sème quelque chose, on récolte quelque chose. Alors, il dit dans le verset 3 à 5, « J'ai vu l'insensé prendre racine. » Voyez-vous, c'est vraiment des images d'agriculture. « Puis soudain, j'ai maudit sa demeure. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à terre et personne qui les délivre. Sa moisson, voyez-vous, la moisson, c'est encore, on sème, on récolte. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines et ses biens sont engloutis par des hommes altérés. » Éliphaz va maintenant amener une allusion qui est dure et qui manque de charité. Cette allusion est très certainement dirigée, guidée par Satan, un peu comme quand l'épouse de Job est arrivée et elle a dit « Maudit Dieu et meurt ». Alors ici, Satan se sert d'Éliphaz pour faire des allusions. Autrement dit, il est en train de dire à Job « Tu récoltes ce que tu as semé ». Est-ce que c'était ça? La vraie raison de son épreuve, non. Alors, dans le verset 3, Éliphaz veut illustrer que les impies prospèrent souvent dans cette vie, mais que cette prospérité est suivie par une chute certaine et soudaine. Le Seigneur permet cela pour des raisons sages. Pourquoi le Seigneur permet qu'autour de nous, nous, on peut être dans une souffrance importante, on peut traverser une épreuve, qu'on a de la difficulté à vivre, puis on voit du monde autour de nous autres, c'est des voleurs, c'est des tricheurs publics, des menteurs, et qu'on les voit, eux autres, qui semblent dans la prospérité jusqu'aux oreilles, qui ont de l'argent, qui semblent pas avoir de maladie, puis nous autres, on est là, puis on écrase sous la souffrance. C'est vrai que ça peut nous emmener à se questionner. Mais le Seigneur nous dit qu'il permet toutes ces choses-là, c'est toujours pour des raisons sages. Premièrement, ça l'exerce notre foi et ça l'exerce notre patience. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'est dans le psaume 113 que David a eu beaucoup de difficultés parce qu'il voyait, la prospérité des méchants et ça m'a emmené presque à la chute, de tomber, autrement dit. Mais quand j'ai vu leur fin, autrement dit, c'est que faut pas que tu vois ça uniquement dans les yeux, avec les yeux de voir sa prospérité temporelle et terrestre. Un jour, ce qu'il a semé, il va vraiment le récolter. Aussi, ces choses-là, de voir des gens autour de nous qui sont des pécheurs, des grands pécheurs et qui connaissent quand même la prospérité, ça nous amène à considérer l'infériorité des choses terrestres si on les compare aux choses célestes. Et ça nous confirme aussi que tôt ou tard, le jugement va arriver sur ces personnes-là. Prenons des exemples pour comprendre. Nebuchadnezzar, à l'époque, c'était le roi le plus puissant de toute la terre. Il pouvait élever quelqu'un, comme faire tomber quelqu'un à volonté. Il pouvait avoir droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Et qu'est-ce que le Seigneur avait permis dans sa vie? Il avait permis qu'il soit humilié, que pendant 7 ans, il aille comme un animal manger de l'herbe dans les champs. Voyez-vous, c'était l'homme le plus puissant de la terre, et du jour au lendemain, il se ramasse dans un champ à manger de l'herbe. C'est un grand... On a aussi Aman dans le livre d'Esther, qui était le deuxième après le roi et qui avait voulu faire périr le peuple d'Israël en disant au roi des choses. Et on sait comment ça s'est retourné contre lui. Il avait fait dresser un gibet sur lequel il voulait pendre Mardoché. Et qu'est-ce que Dieu a permis qu'il arrive? C'est que celui qui avait fait élever le gibet a été lui-même placé sur le gibet. On pourrait prendre un autre exemple dans l'histoire. Napoléon, qui était en France, à un moment donné, le grand empereur qui avait victoire sur victoire. Et à un moment donné, tout, il tombe, il se fait envoyer sur l'île de Sainte-Hélène. L'autre jour, j'ai vu un reportage à la télévision sur ses derniers jours, ça faisait vraiment pitié. Pour un gars qui a connu être empereur d'une nation, avoir toute la richesse, les privilèges, la gloire qui est attachée à ça, finir sur une île avec une petite gang, c'était pathétique, pathétique. Qu'est-ce que le Seigneur nous montre par ça? Il nous montre que, justement, des fois, les hommes qui, sur la terre, vivent dans la prospérité, dans la richesse, dans les honneurs, tôt ou tard, ils vont être jugés. Parfois, c'est sur cette terre. Et si ce n'est pas sur cette terre, c'est très certainement au moment de leur mort. Dans le verset 4, Éliphaz fait une autre allusion malveillante et voilée. Il veut montrer que les enfants des méchants sont souvent entraînés dans le malheur à cause du péché de leur père. Quand on regarde dans le verset 4, il dit « plus de prospérité pour ses fils ». Il est en train de vouloir faire un lien dans la tête de Job. Si tes fils sont morts, tes 10 enfants sont morts, c'est des conséquences de ton péché. Voyez-vous, il est en train de dire des argumentations qui sont fausses. Alors, dans Exode 20, verset 5, Exode 20, verset 5, c'est quoi ça? On parle du décalogue, on parle de la loi, on parle des 10 commandements. Qu'est-ce que Dieu avait dit dans le verset 5? « Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Voyez-vous, le Seigneur est en train de dire que oui, c'est vrai. Alors, il se sert de vérités qui sont bibliques pour avancer un argument contre... Mais c'est une vérité qui est mal appliquée. Il est en train de dire que s'il avait perdu ses enfants, c'est très certainement la rétribution à cause que lui avait péché, mais c'était ses enfants qui payaient pour. Et dans le verset 5, Éliphaz veut démontrer que la richesse des impies devient souvent la proie des hommes rapaces et remplis de convoitises avides. Et le troisième argument, celui de la rétribution, il dit, Job 5, versets 6 et 7, « Le malheur ne sort pas de la poussière. » Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire par ça? Comment il dit, ce qui t'arrive, c'est que tu récoltes ce que tu sèmes. Ça n'arrive pas comme ça. Autrement dit, le malheur ne sort pas de la poussière. C'est ça l'argument. « Et la souffrance ne germe pas du sol. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » Belle image, hein? Si vous avez déjà été autour d'un feu de camp l'été, quand on s'assoit, qu'on regarde les feux, puis qu'on met des morceaux de bois dans le feu, qu'est-ce qui se produit? On voit les étincelles monter. Et autant vous allez mettre du bois, autant ça va se répéter. Et les Écritures sont en train de nous dire, lui, il nous dit, l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Est-ce que vous avez déjà connu un homme riche, un homme célèbre, qui ne souffre pas? Tout le monde y passe. C'est vraiment quelque chose de l'humanité. Alors, Éliphaz va utiliser ici ces mots-là, le malheur ne sort pas de la poussière et tout ça, partiellement comme une réprimande et partiellement comme une consolation. Cependant, les deux sont inapplicables. Alors, s'il y a quelque chose qu'on retient de toute l'intervention d'Éliphaz, c'est pas qu'il dit juste des âneries, il dit des vérités, mais appliquées à mauvaise place. Je pense que cette leçon-là, nous, on se doit de la retenir. Alors, il veut développer l'idée que le malheur n'arrive pas par hasard ou par chance, mais qu'il est une loi de l'existence et une conséquence du péché. Le malheur, comme une ombre, suit le péché et il est universel et certain. C'est quelque chose qui accompagne l'être humain depuis le berceau jusqu'au tombeau. Depuis que je suis au monde, que je souffre, la première chose que tu fais quand tu viens au monde, tu hurles, tu cries, tu pleures. Et depuis le berceau, puis des fois, moi je m'en vais sur 78 ans, puis je vais souffrir jusqu'à ce que je crève, j'en suis convaincu. Parce que c'est le lot de l'être humain. Dieu a fait ça de cette façon-là. Ce qui est intéressant de savoir, cependant, c'est qu'aucune richesse ni aucun pouvoir ne nous immunise contre le malheur, contre la souffrance. Prenez l'homme le plus riche de la terre. Et je suis convaincu que si vous disiez tout ce qu'il vit, il vit, il a peur de perdre son argent, il a peur de ne pas en faire assez. Il est entouré de gens qui ne sont intéressés à lui, qui ne l'aiment bien souvent, que dans le but de retirer quelque chose de lui, ils veulent le siphonner, comme on dit en québécois. Et ça fait en sorte, je disais, la fille des motels Hilton, là, je ne me souviens plus de son nom, là. En tout cas, la fille de Hilton, là. Je ne sais plus si c'est Hillary ou Larry, en tout cas. Quand tu regardes sa vie, cette fille-là, elle est comme milliardaire. Elle est jolie, mais elle n'est jamais certaine si quelqu'un s'intéresse à elle pour elle ou si quelqu'un s'intéresse à elle pour son argent. Imaginez-vous pas que ça ne la fait pas souffrir, ça. Alors, elle est pleine d'argent, elle est connue, elle est illustre, mais elle souffre comme tout le monde, j'en suis pleinement convaincu. Alors, c'est une condition de la vie humaine, de souffrir. Versets 8 à 18, on a Eliphaz ici, il va changer de plaideur à prescripteur. Je vous explique ce que je veux dire par prescripteur. Selon le dictionnaire, un prescripteur est une personne qui recommande expressément ou qui demande impérieusement. C'est une personne qui cherche à influencer le choix de l'autre. Il a voulu lui montrer qu'il était pécheur. Et là, il va essayer de lui prouver qu'il y a seulement un moyen de s'en sortir, et c'est en passant par Dieu lui-même, le prescripteur. Il va dire des vérités sur l'Éternel dans le but de prendre Job, de le faire prendre. OK, maintenant que tu reconnais que tu es pécheur, voici par quel moyen tu peux t'en sortir. La thèse qu'il va développer dans cette section est la suivante. Voici ce que tu dois considérer et faire pour retrouver la faveur de Dieu. Si on pourrait résumer le 8 à 18, c'est comme s'il lui disait, voici, considère ces choses-là et fais-le et tu vas retrouver la faveur de Dieu. Il va utiliser trois arguments. La recommandation, la rationalisation et la nécessité de la repentance. Verset 8, la recommandation. Quand il lui dit, pour moi, alors il dit, moi, Eliphaz, là, moi, là, si j'étais dans ta situation, là, voici ce que je ferais. Il dit, pour moi, j'aurais recours à Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Job? Aie recours à Dieu. Il lui dit, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il est en train de dire, maintenant que je t'ai convaincu que tu es un pécheur, maintenant, la seule façon de t'en sortir, c'est de t'adresser à celui qui peut faire en sorte que tu vas t'en sortir. Encore une fois, Eliphaz fonctionne par allusion. Avez-vous vu le nombre de fois que j'ai mentionné allusion aujourd'hui? Il fonctionne toujours par allusion. Si t'es comme ça, c'est parce que tu peux, si t'es pris pas... Il est toujours en train de faire des allusions. Quand des personnes nous parlent et qu'ils nous disent les choses directement, moi j'aime bien mieux que quelqu'un me dise en pleine face qu'est-ce qu'il y a contre moi, que dans une conversation, des allusions. On sait, hein, les allusions, c'est comme il soulève quelque chose, il te laisse sous-entendre que ça s'applique à toi, mais il ne veut pas te le dire directement. Alors il y fasse ce qu'il fait, il procède par des allusions. Son propos manque de charité et ça semble indiquer que Job n'est pas un homme de prière. Il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu et j'exposerai ma cause devant l'Éternel. Qu'est-ce que ça sous-entendait? Ça sous-entendait, toi, tu pries pas. Voyez-vous, c'était pas des choses qui encourageaient Job loin de là. Il recommande à Job de chercher auprès de Dieu les choses suivantes. Le conseil et la direction, bien sûr. Le réconfort et le soutien. La grâce. La délivrance et le bénéfice de l'amélioration spirituelle. Il est en train de dire, si tu fais toutes ces choses, voici qu'est-ce que tu vas trouver auprès de Dieu. Et quand on disait, premier argument, la recommandation, donc il dit, je te recommande, voici ce que tu dois faire. Et après ça, rationalisation, c'est de démontrer par la raison que c'est ça qu'il se doit de faire pour plusieurs raisons. Voyez-vous, à partir du verset 9 jusqu'au verset 16, il dit, il parle de Dieu. Il dit, il fait des choses grandes et insondables. Bien entendu, c'est vrai. Des merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre, il envoie l'eau sur les campagnes, il relève les humbles, délivre les affligés, il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend des sages pour leurs propres ruses, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il rencontre les ténèbres au milieu du jour, il tâtonne en plein midi, comme la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Qu'est-ce que Job est en train de faire? Il est en train de rappeler à Job les attributs de Dieu. Après que tu t'es fait dire que tu es un pécheur, et il lui montre le moyen par lequel il peut s'en sortir, mais il veut lui montrer qu'est-ce que Dieu est. Pensez-vous que Job ne savait pas toutes ces choses-là? Voyons, il savait toutes ces choses-là, mais il voulait lui rappeler. Alors, dans le verset 9, on a vraiment l'attribut de la toute-puissance. On sait que Dieu est tout-puissant. On n'a aucune idée, même les plus savants des êtres humains, les plus spirituels des êtres humains, quand on dit de Dieu qu'il est tout-puissant, pensez-vous qu'on a une idée de ce que c'est, la toute-puissance? Oui, on en a une, mais tellement petite. Comme quand on dit que Dieu est capable de prendre l'univers, c'est grand l'univers. Là, je n'ai pas les chiffres sous les yeux maintenant, mais c'est énorme. Et ça pèse des milliards et des milliards de tonnes. Il est capable de rouler ça comme un manteau. Et pensez-vous que là, il est rendu au bout de sa puissance quand il fait ça? C'est un infini. Sa puissance est infinie. Alors, il veut démontrer à Dieu, il dit de Dieu qu'il faisait des choses grandes. Et j'aime beaucoup l'adjectif insondable. Insondable, c'est comment tu essaieras de sonder ça. Avec ton intelligence, avec tes connaissances, avec ton expérience, tu n'y arriveras jamais. Et même au ciel, quand on va être devant Dieu, qu'on va découvrir sa grandeur, on ne découvrira jamais sa toute-puissance au complet. Ça, c'est un attribut. Et c'est la même chose pour tous les autres attributs. Dieu est grand, bien au-delà de ce que nous sommes capables de concevoir. Alors, cette toute-puissance peut être observée dans plusieurs endroits. Les œuvres de la création. Je défie n'importe qui d'entre vous de commencer à étudier l'astronomie, même amateur, pendant un an ou deux, puis de ne pas être émerveillé devant les grandeurs de ces choses-là. Je défie n'importe qui d'étudier la biologie. Je défierai pas Francine d'étudier la chimie, parce qu'elle l'a déjà faite. Mais moi, je me souviens d'avoir déjà étudié un livre de biologie dans lequel j'étais chrétien au moment où je l'étudiais, le livre de biologie. Et c'est vrai que la cellule est tellement complexe, c'est tellement bien organisé que ça nous amène à l'adoration. On regarde ça, on se dit « Wow! » Autant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit, la toute-puissance de Dieu se voit. Elle se voit dans sa création, elle se voit dans sa providence. La providence, c'est l'ensemble des circonstances que Dieu nous envoie. On voit sa toute-puissance là-dedans. Comment on la voit? On parlait à l'exemple tout à l'heure de Nebuchadnezzar. La providence de Dieu a permis qu'il soit le roi de la terre et le lendemain, il mangeait de l'herbe dans le champ. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est parce que Nebuchadnezzar a mané tatané d'être un roi, puis il a dit, bon, on va aller manger de l'herbe dans le champ. Quand il a monté, puis il a vu la belle Babylone qu'il avait construite, la ville que j'ai construite, il y avait bien des jeux dans cette phrase-là. Il était centré sur lui-même. La ville que j'ai construite. Dieu a dit, wow, je vais te montrer que c'est pas toi qui l'as construit, c'est parce que c'est moi qui l'ai permis. Et aussi, la toute-puissance de Dieu dans la grâce. On peut-tu avoir un domaine dans lequel on voit plus la puissance de Dieu que dans la grâce? Prenez par exemple des pécheurs endurcis, qui sont dans des péchés parfois, là. Si Dieu ne les sauve pas, il vient te chercher alors que tu es ton ennemi. Essayez de vous réconcilier avec quelqu'un qui est vraiment votre ennemi. Vous m'en prendrez de nouvelles. Un ennemi, il est fermé devant toi. Il ne veut pas rien savoir. Tu sais, la fameuse expression québécoise, « il ne veut rien savoir ». Quand quelqu'un dit « il ne veut rien savoir », ce n'est pas de négocier avec ou de communiquer avec, tu n'es pas capable. Nous, on est dans cet état-là. On est des ennemis de Dieu. Dieu vient nous chercher dans notre misère et il nous donne l'Esprit Saint par lequel on découvre non seulement sa personne, on découvre notre propre état de perdition. Et c'est ça qui rend Dieu si tout-puissant. Alors, verset 9, il veut lui montrer l'attribut de la toute-puissance. Verset 10, il veut lui montrer l'attribut de la bonté. Un des moyens pour découvrir la bonté de Dieu, c'est vraiment ce qui est dit dans « Il répand la pluie sur la terre et l'envoie l'eau sur les campagnes. » Dieu, c'est souvent, si on prend les Écritures, tout ce que les Écritures disent sur la pluie, Dieu va souvent utiliser la pluie comme un moyen de bénédiction ou comme un moyen de malédiction. S'il retient la pluie, imaginez-vous au Canada les récoltes de blé qu'on a dans l'Ouest, là. Si Dieu retenait la pluie, on serait fait. Non seulement là-dessus, mais sur n'importe quoi. Prenez l'ensemble de tout ce qui se passe sur la terre au point de vue agricole. La pluie, c'est une bénédiction. Ça remplit beaucoup de rôles dans la vie, non seulement sur l'agriculture, mais à d'autres endroits. Alors, il veut lui montrer la toute-puissance, verset 9. Il veut lui montrer la bonté dans le verset 10. Il veut lui montrer la souveraineté de Dieu dans le verset 11. Il relève les humbles et délivre les affligés. Ça prend juste Dieu pour être capable de faire ça. Tu prends un humble, Dieu est capable, autant est capable de prendre le roi Nebuchadnezzar puis d'en faire quelqu'un qui mange de l'herbe, autant est capable de prendre un bum, comme on dit en québécois, de la rue, puis d'en faire quelqu'un de riche, de respecté. Alors Dieu est capable de faire ça. Alors il veut lui rappeler que Dieu est capable de relever les humbles, de délivrer les affligés. Donc on vient de passer trois attributs, toute puissance, bonté, souveraineté. Verset 12 à 14, il veut lui rappeler que Dieu est sage. Il anéantit les projets des hommes rusés. Quand les hommes se mettent ensemble pour essayer de bloquer, disons, l'entrée de l'Évangile dans un pays, comment qu'ils feraient les plans les plus intelligents pour empêcher l'Évangile de rentrer dans le pays? Dieu, dans sa sagesse, va trouver un moyen pour s'en rendre pareil. Il est en train de leur dire, il anéantit les projets des hommes rusés, leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse. Autrement dit, la sagesse des hommes n'arrivera pas jamais à contrecarrer quelque projet de Dieu que ce soit. Alors, ah oui, ça c'est une belle illustration. Le Seigneur réduit souvent à néant les plans les plus astucieux, les plus diaboliques. Par exemple, la flotte espagnole qu'on a appelée l'Armada, il y avait, à l'époque de la Réformation, la Réforme est en train de prendre de la puissance dans certains pays, l'Angleterre, la France, et la papauté s'était organisée avec le roi d'Espagne, qui était un roi que lui appelait très chrétien, ou plutôt très catholique. Il avait demandé de bâtir une flotte énorme pour aller écraser l'Angleterre, parce que, autrement dit, la flotte de l'Angleterre n'était pas de calibre pour rencontrer. Et si les Espagnols avaient réussi ça, ils auraient brisé la Réformation dans ses racines. Qu'est-ce que Dieu a permis qu'il arrive? Dieu a permis qu'il y ait une tempête dans le déplacement des bateaux vers l'Angleterre et la flotte a été anéantie sans même que les canons aient été besoin d'être utilisés. Alors, c'est un exemple. On pourrait prendre l'exemple d'Esther et d'Aman. On pourrait prendre l'exemple d'Achitophel. Je ne sais pas si vous vous souvenez le fameux Achitophel à qui on disait que sa manière de conseiller était considérée comme quasiment parole de Dieu. Et à un moment donné, quand il a conseillé le fils de David pour prendre le pouvoir, Dieu a permis qu'un autre donne son conseil et que son conseil soit anéanti. Imaginez-vous l'orgueil du gars. Il était tellement habitué à tout ce qu'il disait, ses conseils étaient vraiment bons. Il était tellement habitué à ce que tout le monde écoute, même les rois, ses conseils, que quand il y a un autre qui a dit un conseil, puis son conseil était bon, les Écritures nous disent que le conseil qu'il a dit, que si le roi, le prétendant à la royauté l'avait utilisé, il aurait vaincu David. Mais Dieu a permis que son conseil ne soit pas utilisé, ne soit pas écouté. Qu'est-ce qu'il a fait à Achitophel? Il est parti à l'Espagne. On voit-tu la folie des hommes? à cause que le roi n'avait pas écouté son conseil. Il a dit, autrement dit, à l'avenir, mes conseils, ça ne vaudra plus à rien. Donc, pour moi, je décide de me tuer. La folie furieuse. Alors, la tribu de la sagesse, on voit que Dieu, malgré la sagesse des hommes rusés, il y était rusé et le conseil qu'il avait donné était bon. Et si le prétendant au trône l'avait suivi, il aurait battu David. Et le Seigneur permet, voyez-vous, il défait le conseil. Alors, si on voit là-dedans, c'est vraiment sa sagesse. Et dans le verset 15 et 16, on a vraiment l'idée de la tribu de la miséricorde. Dieu l'a puissamment manifesté lors de la sortie de son peuple d'Égypte et dans de multiples autres occasions dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire de l'Église. Dieu l'a exercé fréquemment dans la vie de ses enfants individuellement. Voyez-vous, il est en train, l'argumentation qu'il est en train de dire. Tourne-toi vers Dieu pour obtenir, retourner à sa faveur. Rappelle-toi que Dieu est tout-puissant. Rappelle-toi que Dieu est bon. Rappelle-toi que Dieu est souverain. Rappelle-toi que Dieu est sage. Et rappelle-toi que Dieu est miséricordieux. C'était-tu bon, ton conseil? Oui. Et dans le verset 17 et 18, c'est là que ça se gâte un peu. Il dit des belles choses, mais dans le verset 17 et 18, il dit « Heureux l'homme que Dieu châtie. » Il est en train de dire que Job est dans cette situation parce que Dieu le châtie à cause de son péché. Mais il dit « Heureux l'homme que Dieu châtie. » Et le but de ça, c'est d'essayer de l'amener à la repentance. « Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Où qu'on a vu ça récemment? Hébreux. Quand on étudie Hébreu, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il bande, il blesse et sa main guérit. Il est en train de lui dire, tu es dans cette situation-là, tu souffres, mais tout ça. Mais si tu te retournes vers Dieu, si tu te repens, il veut lui faire prendre conscience que ce qui lui arrive, c'est une correction que Dieu lui envoie, un châtiment que Dieu lui envoie. Est-ce que c'était ça? Non, c'était pas ça. Alors, Eliphaz utilise encore une fois l'allusion. Que Job est coupable, qu'il est sous la correction de Dieu et qu'il a besoin de se repentir. Job avait effectivement besoin de se repentir, mais pas pour les raisons évoquées par Eliphaz. Job le reconnaîtra plus tard. Il n'avait pas besoin de se repentir de ses péchés, mais plutôt de se repentir d'avoir obscurci les desseins de Dieu et de questionner ses voies providentielles. Ça, c'était vraiment son erreur. Mais l'autre n'a pas mis le doigt à la bonne place, il l'a accusé de choses fausses. La preuve que Job va reconnaître Dieu dans le verset 6 du chapitre 42, là, c'est Job qui parle, après avoir tout connu, toutes ces affaires-là, c'est vraiment la fin du livre, il dit « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Voyez-vous la beauté de ça? C'est que là, à la fin, il a reconnu que c'était... Il avait besoin de repentance, mais pas la repentance qui était suggérée par Eliphaz. Alors, on a des choses à apprendre là-dedans. Les corrections de Dieu prennent leur source dans l'amour de Dieu envers nous, qu'il les exerce toujours dans la miséricorde. Si le Seigneur nous accordait des corrections selon ce qu'on mérite vraiment. Et vous, ce qui arrive dans la vie, c'est quand on fait un péché, Dieu nous dit, peu importe le type de péché, la gravité du péché, que ce soit en pensée, en parole, en action, en omission, ou un péché secret, ça nous mérite tout un l'enfer. Quand on fait un péché, quand Dieu nous châtie, qu'il nous corrige, c'est pour nous transformer, nous emmener à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, il l'exerce toujours dans la miséricorde. Peu importe la gravité ou l'importance du châtiment qu'il nous envoie, c'est toujours dans la miséricorde, parce qu'on mériterait beaucoup plus que ça. Et elles ont toujours aussi pour objet notre amélioration spirituelle. Dieu ne nous fait pas souffrir, n'amène pas de châtiment dans nos vies dans le but de nous regarder. Ah, c'est le fun de nous voir souffrir. Non, Dieu nous emmène dans ces choses-là, dans le but de nous transformer, de nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Et aussi dans le but de nous faire participer à sa sainteté divine. Rappelons-nous constamment que Dieu ne fait jamais souffrir plus que nécessaire. Lamentations, chapitre 3, verset 32-33. Mais lorsqu'il afflige, ici on parle de Dieu, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. C'est important de se souvenir de ça. L'Éternel est le grand médecin de l'âme. Il est d'une habileté infinie et d'une infinie tendresse. Et on finit par la troisième partie, Eliphaz le professeur, 19 à 27. On va aller vite. Donc, il veut lui faire réaliser dans le verset 19 à 23. Six fois, il te délivrera de l'angoisse. Sept fois, le mal ne t'atteindra pas. Il continue ainsi. Alors, Eliphaz veut convaincre Job de se repentir de son péché présumé. Pas de son péché qu'il a observé, mais ni le péché confessé, un péché présumé, en accordant une entière confiance aux promesses de Dieu. Alors là, après lui avoir parlé des attributs de Dieu, il veut l'amener à considérer les promesses de Dieu. Alors il lui dit, dans le verset 19, que Dieu... D'abord, il commence par des promesses qu'on pourrait appeler négatives. La délivrance du trouble, verset 19. La protection lors de la famine, verset 20. La protection lors de la guerre, verset 20b. La protection contre la calomnie, verset 21. La protection contre les invasions étrangères et les bêtes sauvages. La protection contre les éléments naturels de la création, verset 23. Il lui dit aussi la restauration, la promesse de restauration de Dieu. Tu jouiras du bonheur sous tes tentes, tu retrouveras les troupeaux au complet. Alors là, maintenant, il passe sous des bénédictions négatives. Il t'arrivera pas ci, il t'arrivera pas ça, il t'arrivera pas ça. Il passe maintenant aux bénédictions positives. Il dit, tu vas avoir la paix et la félicité domestique. La paix et la félicité domestique, quand Dieu permet que dans un couple ou dans une famille, il y a de la paix, c'est une bénédiction de Dieu. La descendance nombreuse, dans le verset 25, il dit dans le verset 127, verset 5, « Heureux l'homme qui en remplit son carquois. » Il parle des enfants, là. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Il permet dans le verset 26 une autre bénédiction, la longue vie. Et dans le verset 27, là, c'est la conclusion. Je passe rapide, ben, j'aurais pu développer au moins une demi-heure sur ce passage-là, mais on va terminer aujourd'hui. Alors, Job 5, verset 27, il dit, ça c'est intéressant, « Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est. » Il dit une grosse phrase, là. À toi d'entendre et de mettre à profit. Voyez-vous, il y a trois phrases là-dedans. Il commence par le convaincre de péché. Deuxièmement, il met face aux attributs de Dieu. Et troisièmement, il met face aux promesses de Dieu. Les promesses négatives et les promesses positives. Au verset 9, Eliphaz avait avoué que les voies de Dieu sont insondables. Il avait dit, il fait de grandes choses et insondables, des merveilles sans nombre. Quand tu dis de quelque chose qui est insondable, puis après, dans le verset 27, tu dis, voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est, ça, sa manière d'expliquer les choses, c'est qu'il prétendait comprendre les voies de Dieu, alors qu'au verset 9, il avait dit qu'il était insondable. Mais lui, il ne dit pas qu'ils sont insondables. Moi, j'ai compris, je suis en train de te dire qu'est-ce qui se passe, puis applique ce que je te dis, puis ça va bien aller. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, il prétend même les avoir sondés, les voies providentielles de Dieu. Il s'appuie donc à la fois sur une vision nocturne qu'on avait vue dans le chapitre 4. On avait vu qu'il y avait un esprit qui avait passé près de lui et qui avait dit « L'homme est-il plus juste? » Tout ça, ce passage-là, qu'on a vu la semaine passée. Si vous n'étiez pas là, vous irez sur Internet, vous écouterez le verset la semaine passée. Et sur son expérience, il se base sur son expérience, qu'il a d'ailleurs en commun avec d'autres sages, en particulier ses deux compagnons. Hélas, il n'a qu'une vue bornée et partielle de la vérité, et ce qu'il a découvert reste très insuffisant. Le pire, c'est qu'il ne se rend pas compte et pense pouvoir être satisfait de lui-même quand il dit « c'est ainsi » et il ne voit rien qu'il faille ajouter. C'est comme là, il pense qu'il a tout découvert la vérité, puis il a tout dit à Job, qu'est-ce qu'il avait à dire. « Tu as juste à faire ce que je te dis, puis ça va bien aller. » Alors la vie est plus complexe que ce schéma simpliste. À la dernière phrase qui dit « À toi d'entendre et de mettre à profit », ça prend l'allure d'une semonce lancée par un maître d'école à un élève ignorant et indocile. Le caractère hautain d'Éliphaz se montre là sous son jour le plus déplaisant, et il n'est pas étonnant que Job, blessé dans sa dignité, explose d'indignation dans le chapitre suivant. On va voir que dans le chapitre 6, là c'est Job qui répond aux affirmations d'Éliphaz, et on va voir qu'il explose littéralement. On va voir que là, il va avoir son dialogue avec Éliphaz. Ça va être un monologue. Il va avoir son monologue à lui. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire du texte aujourd'hui? Premièrement, soyons toujours prudents dans nos interprétations des souffrances que le Seigneur permet dans la vie des hommes, tant individuellement que collectivement. Nul ne peut juger des motivations et des fins divines. Il faut faire attention, dire, s'il arrive une tempête dans tel pays, c'est un châtiment de Dieu. Ça peut, mais on n'est pas sûr. Deuxièmement, nous devons utiliser les Saintes Écritures dans nos tentatives de consolation des autres. Cependant, nous devons prendre garde de ne pas mentionner des vérités et mal les appliquer à une situation particulière. Implorons la sagesse de Dieu lorsqu'on utilise les Écritures pour consoler quelqu'un. Troisièmement, les promesses de Dieu sont infiniment précieuses, ainsi que ses châtiments. Sachons les utiliser pour nous examiner et pour bien profiter des enseignements du Seigneur. Que l'Éternel soit loué pour la lumière qu'il nous a donnée, pour mieux comprendre et accueillir nos souffrances. Amen.